Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. La phobie scolaire touche en moyenne un élève par classe. Ce mot, caractéristique des données inquiétantes sur la santé mentale des jeunes, est encore trop méconnu. J'ai eu la chance aujourd'hui de creuser le sujet de la phobie scolaire avec la pédopsychiatre Aurélie Harf, qui s'investit avec optimisme et pragmatisme pour ces jeunes et leurs familles dont le chemin de vie est atypique, mais où la confiance de tous peut faire la différence. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurélie.
Bonjour Stéphanie.
Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, on est dans un endroit particulier puisqu'on est à la maison des adolescents. Vous êtes pédopsychiatre et on est aujourd'hui ensemble pour parler de la phobie scolaire. Et avant de démarrer, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi consiste une maison des adolescents.
Alors, une maison des adolescents, c'est une structure donc, qui accueille, comme son nom l'indique, les adolescents entre 11 et 19 ans. Qui existe depuis environ maintenant une vingtaine d'années. Et l'objectif, c'était qu'il puisse y avoir une maison des adolescents dans chaque département. Donc c'est un lieu d'accueil pour tous les ados et leurs familles qui peuvent arriver sans rendez-vous, avec rendez-vous, et qui peuvent être vus. Alors chez nous, par exemple, ils peuvent être vus par un infirmier, un pédiatre, un psychologue, un pédopsychiatre. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil où on va s'occuper de toutes les problématiques concernant l'adolescence. Bien sûr, après, en fonction de chaque maison des adolescents, il y a un fonctionnement différent. Et donc, par exemple, nous, donc ici, on est à la maison des adolescents, maison de Solène, là, qui est à Paris, dans le 14e, et où nos deux motifs de consultation les plus fréquents, ce sont la phobie scolaire, dont on va parler, et les troubles du comportement alimentaire. Et on s'occupe de l'adolescent dans sa globalité, aussi bien son corps que son psychisme.
Qu'est-ce que c'est la phobie scolaire ?
Alors, grande question, on va essayer de prendre le temps d'y répondre progressivement. La phobie scolaire, alors si on part de la définition qu'on utilise en France notamment, c'est une peur irrationnelle d'aller à l'école, qui va se manifester par des réactions d'anxiété, notamment quand on essaie de forcer l'enfant à y aller. Ça, c'est la définition. Si on reprend un petit peu l'historique, on a distingué la phobie scolaire, qu'on appelle aussi d'ailleurs refus scolaire anxieux, de l'école buissonnière. Puisque, en fait, historiquement, on distinguait les enfants qui n'avaient pas envie d'aller à l'école, qui avaient envie d'aller faire autre chose, qui séchaient les cours, comme on disait, d'enfants qui, eux, n'arrivaient pas à aller à l'école parce qu'ils étaient trop anxieux. En réalité, on en revient un petit peu de cette distinction-là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des enfants qui, soi-disant, faisaient l'école buissonnière, mais en fait, c'est parce que, justement, ils avaient peur d'y aller et que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des différences en fonction du milieu socio-économique. C'est-à-dire que les enfants qui venaient d'un milieu peut-être moins favorisé, on avait plus tendance à dire qu'ils séchaient. Et puis les enfants qui venaient d'un milieu plus favorisé, qu'ils étaient en phobie scolaire. Ce qui a une grosse importance, puisque bien sûr, les réponses apportées ne sont pas les mêmes. Voilà, donc on en revient quand même de cette question phobie scolaire, école buissonnière.
Est-ce qu'il y a plus de phobie scolaire aujourd'hui ?
Alors, j'allais dire bien sûr. Alors peut-être qu'avant, on les repérait moins aussi, mais... Quand même, on constate une véritable explosion du nombre de phobies scolaires depuis une quinzaine d'années. Pour vous préciser les choses, actuellement, on dit qu'il y a au moins un enfant par classe en phobie scolaire, ce qui est énorme.
Énorme.
Énorme. Hein. Et les chiffres sont probablement sous-estimés, puisqu'on n'a pas non plus de moyens complètement fiables et rigoureux de quantifier tout ça. Mais le chiffre de au moins un élève par classe interpelle évidemment beaucoup.
Et ça touche surtout les adolescents ou est-ce que ça touche aussi des enfants plus jeunes ?
Ça touche tous les âges. Après, je dirais que on ne peut pas forcer un adolescent à aller à l'école. On peut peut-être un peu plus forcer un enfant à aller à l'école. Donc, les manifestations ne vont pas être les mêmes. On dit que les pics de fréquence de la phobie scolaire, c'est au moment des grands changements, c'est-à-dire l'entrée en sixième et l'entrée au lycée. Néanmoins, on constate, nous, très clairement, et l'ensemble des professionnels confirme ça, que les enfants sont de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup plus de, justement, de fin de collège, lycée, et on a maintenant de plus en plus de petits, c'est-à-dire dès l'entrée en sixième, qui n'arrivent plus à aller à l'école.
Vous parliez tout à l'heure des catégories socio-professionnelles. Est-ce qu'il y a un lien, une corrélation entre le niveau social des enfants et le fait d'être en phobie scolaire ? Ou pas du tout, ça touche tous les milieux ?
Alors pour le coup, la phobie scolaire, on pourrait dire c'est très égalitaire, c'est-à-dire que ça touche tous les milieux et ça touche aussi bien les garçons que les filles. Donc là, on est vraiment sur un phénomène qui ne concerne pas du tout, par exemple, plus des écoles élitistes ou avec des milieux plus favorisés. C'est vraiment, ça concerne absolument tous les milieux socio-économiques. Ça concerne toutes les classes socio-professionnelles.
Comment est-ce que ça se manifeste, une phobie scolaire chez un jeune ?
Alors, il faut effectivement être assez vigilant, puisque au début, ça va souvent se manifester de façon un petit peu cachée. Et là, j'en reviens. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais au début, on s'occupe de l'adolescent aussi du corps des adolescents. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que au début, ça peut aussi passer par le corps. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bah, ça va être des enfants qui vont avoir mal au ventre, ou envie de vomir, ou qui vont faire des vertiges, parfois même des malaises, mal à la tête, trop fatigués. Et donc, c'est vrai qu'au début, bah, c'est pas si simple de savoir aussi de quoi il s'agit, puisque les manifestations peuvent vraiment passer par le corps et que souvent, ça va quand même mieux pendant les vacances. C'est la situation un petit peu typique, c'est, vous savez, c'est ces courbes, c'est-à-dire au moment de la rentrée de septembre et puis après, à chaque rentrée scolaire, y a les douleurs, les manifestations par le corps qui vont augmenter avec... un pic la veille de la rentrée, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de familles, bien sûr, qui connaissent ça. Hein, mais là, ça peut aller jusqu'au fait de ne pas pouvoir y aller tellement ça fait mal, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le côté, j'allais dire du corps, de comment ça peut se manifester. Et après, il faut aussi dire que les présentations ou les tableaux cliniques sont assez variés. C'est-à-dire, alors déjà sur le plan quand même des notes, hein, c'est pas du tout des enfants qui vont être particulièrement en difficulté scolaire. Ce sont souvent des enfants qui ont un niveau tout à fait bon sur le plan scolaire. Et il n'y a pas du tout d'ailleurs forcément d'effondrement des notes. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être des enfants qui maintiennent, au départ beaucoup en luttant d'ailleurs, hein, mais qui maintiennent comme ça la scolarité, les notes, les résultats. Et ce ne sont pas d'ailleurs d'enfants qui ont des troubles des apprentissages forcément, hein, du tout. Hein, la grande majorité n'en ont pas du tout. Et quand je disais des présentations assez hétérogènes, je voulais dire aussi que voilà, il y en a où ça va s'accompagner d'un isolement, d'un repli à la maison, de grandes difficultés dans les relations avec les autres, parfois une vraie phobie sociale. Et puis parfois, et ça c'est, j'y reviendrai, c'est un point parfois difficile à comprendre, ce sont des enfants qui, ou des adolescents, qui gardent la possibilité d'être en lien avec les autres, parfois ils gardent même des activités extrascolaires, mais avec l'école ça bloque. Et alors là c'est sûr que parfois pour l'entourage, ou pour l'école, c'est plus dur à comprendre, parce que quand on voit un adolescent où ça se voit pas, et même parfois qui continue à faire des activités à l'extérieur ou qui continue à avoir les amis à l'extérieur, on se dit non mais là, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est de la mauvaise volonté, il n'y met pas du sien, s'il allait si mal que ça, bah, il n'arriverait plus à aller à la danse ou au judo, etc., etc. Donc ça c'est un point très important parce que ça ne va pas forcément avec un arrêt de tout.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'il y ait une telle explosion de la phobie scolaire chez les jeunes ?
Alors c'est une question qu'on se pose tous. Et s'il y avait une seule réponse, bon, bien sûr, hein, je vous la donnerais. Je serais bien contente de l'avoir parce qu'on est quand même très désemparés et très démunis. Et on se dit qu'il y a forcément plusieurs fils à tirer. Ce sont des enfants, d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour souligner l'importance là, du travail qui est fait par l'association Phobie Scolaire, qui est une association de familles concernées par cette question-là, qui justement interpelle sur la question de reconnaître la phobie scolaire. Parce que, alors là, je m'excuse, je fais une petite digression, mais qui me semble importante, c'est que la phobie scolaire, en fait, ne figure pas dans les classifications médicales ou psychiatriques, comme voilà, les classifications des maladies ou le DSM. Et ça, c'est important parce que c'est comme si c'était pas un vrai problème. C'est-à-dire, c'est comme si, finalement, c'était pas reconnu comme un trouble, comme si c'était pas vraiment de l'anxiété, comme si. Et c'est mis avec d'autres choses. Or, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, ça va pas forcément, par exemple, avec une anxiété de séparation. Donc, c'est pas logique de le mettre avec. Et là, il y a un vrai combat, je pense, à mener, que ce soit du côté des professionnels, et on est vraiment aidé par, justement, les associations de famille, pour que ce soit reconnu aussi en tant que tel, ce qui permettrait de mieux comprendre. Et de pas justement dire, comme je disais auparavant, non mais là, c'est pas possible, il a la flemme et c'est de la mauvaise volonté. C'est compliqué, hein, les choses qui ne se voient pas. C'est sûr qu'avoir un bras cassé, ça se voit. Avoir une phobie scolaire, ça ne se voit pas forcément. Et ce sont souvent des ados qui essaient de jouer le jeu, qui essaient de tenir. Donc quand ils arrivent à aller en cours, et bien justement, ils essaient de tenir le rôle, de tenir que ça, voilà, de tenir que l'apparence en fait, et qu'on voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux et leur angoisse, leur mal-être, leur souffrance, leur détresse. Mais paradoxalement, le fait que ça ne se voit pas, parfois, risque d'entraîner un jugement ou une incompréhension. Alors, pour en revenir à votre question, c'est pour ça que y avait un lien, c'est que quand même ce qu'on repère, c'est que, j'allais dire, c'est presque la richesse de ces adolescents. C'est-à-dire que ce sont des adolescents qui souvent sont atypiques. Alors atypiques, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Mais qui ne vont pas complètement, forcément, rentrer dans le moule. Et souvent depuis longtemps. Parce que, pour plein de raisons, hein. Alors parce que peut-être ils sont plus dans le monde de l'imagination, parce qu'ils ont un rapport au monde, alors parfois ils peuvent avoir au potentiel intellectuel, ou parfois ils peuvent avoir un rapport au monde un peu différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recherche toujours aussi quelque chose du registre du trouble du spectre autistique, mais aussi parfois une créativité, encore une fois, un rapport au monde qui peut être un peu en décalage. Donc, ce qui est une grande richesse, bien sûr, mais dans le système scolaire et encore plus actuel, ne pas rentrer dans le moule, ça pose problème. Et là, on en arrive à la deuxième partie un petit peu de ma réponse, c'est que quand il y a un décalage trop important entre le jeune et ce moule exigé depuis souvent, même la maternelle, par le système scolaire, il y a une souffrance qui s'installe. On tient. On joue un rôle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les ados. Là, quand je vous raconte tout ça, vous voyez, moi, je m'occupe d'un hôpital de jour où les adolescents qui viennent à l'hôpital de jour, ce sont des adolescents qui sont en phobie scolaire. Ils expliquent les choses bien mieux que tout ce qu'on pourrait faire, nous, et ce qui ressort toujours de leur discours, c'est ça. On a essayé de tenir, on a joué un rôle tant qu'on a pu, et à un moment donné, on n'y arrivait plus. Et donc, on a arrêté parce que c'était plus possible. Ça ne servait à rien d'essayer de nous forcer. On n'y arrivait plus. Et tout le travail qui va être nécessaire, c'est de les accompagner pour justement presque se retrouver eux-mêmes, retrouver qui ils sont, retrouver confiance dans leurs propres ressources et leur propre créativité, pour qu'ils puissent finalement retrouver un chemin, mais qui leur correspond. Donc, pas d'explication unique, mais beaucoup de fils multiples à tirer, quoi.
Comment on fait, une fois qu'on a identifié cette phobie scolaire, pour au final les guérir ? Parce que vous parliez du moule, c'est très intéressant. Moi, je crois beaucoup que, en effet, l'un des problèmes de notre système scolaire, c'est cet objectif de normalisation qu'on a souvent chez les enfants. Comment on fait, une fois qu'on veut guérir cette phobie scolaire, pour réintégrer ou pas les enfants au monde scolaire ? Qui n'a pas changé et qui sera toujours avec cette volonté d'intégrer les enfants à ce moule.
Alors, vous n'êtes pas très optimiste, hein, quand même. Déjà, il faut accepter de prendre un peu de temps. Quand les familles arrivent, c'est souvent la panique. C'est-à-dire qu'un enfant qui se déscolarise, c'est terrible. On essaye tout. En tant que parent, on essaye plein de choses. On essaye parfois même de forcer. On se rend bien compte que ça ne marche pas. On essaye d'accompagner, de soutenir, d'aménager. On essaye tout. Et puis, quand ça ne marche pas, on se sent complètement démuni. Là, j'en arrive aussi à la place centrale des familles, avec lesquelles nous, à la Maison des Adolescents, on travaille constamment et à tous les niveaux de la prise en charge, les familles se sentent totalement démunies. Parce que un enfant qui sort du système scolaire, c'est un enfant finalement qui n'a plus l'inscription qu'il est censé avoir à cet âge-là. On dit bien que c'est au collège, c'est au lycée que on est censé se développer en tant qu'ado, c'est le processus de séparation individuation, on investit des groupes d'appartenance, on se sépare des imagos parentales, enfin c'est tout le processus de l'adolescence qui est censé se faire aussi à l'école. Donc un enfant qui dit mais moi je n'y arrive plus, je reste à la maison, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, accepter de prendre le temps, c'est pas du tout minimiser le problème, mais c'est expliquer aux familles, voilà, là, il va falloir un petit peu prendre le temps de comprendre, parce que là, le fait qu'il n'arrive plus à aller à l'école, souvent, ça a commencé bien avant, avec parfois des moments d'absentéisme, un mal-être. Bon, donc, il faut arriver à se poser, à prendre le temps et à mettre en place un vrai accompagnement qui va être multiple. Alors, quand je disais on travaille avec les familles, ce sont vraiment les familles qui sont au cœur de la prise en charge. Ce sont les familles qui connaissent le mieux l'adolescent, ce sont les familles qui vont élaborer les différentes stratégies possibles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment on réagit aussi en tant que parent. Donc on va proposer à la fois de prendre des temps avec les ados, de prendre des temps avec les familles. Nous, maintenant, on propose même des groupes multifamiliaux, c'est-à-dire que c'est plusieurs familles ensemble concernées, toutes concernées par la question de la phobie scolaire, qui vont travailler ensemble. C'est une richesse infinie parce que les familles se soutiennent, échangent les différentes problématiques, stratégies, options. Il y a des échanges entre les parents, il y a des échanges entre les ados et les parents, pas forcément de la même famille. Les parents entendent aussi tout ce que disent les adolescents. Donc il faut accompagner les adolescents, il faut accompagner les familles et puis il faut travailler avec l'école. Alors quand je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas très optimiste, bon, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Nous, on est très en lien avec les écoles et on se rend compte que les professeurs sont très démunis par rapport à ces questions. Ils ne comprennent pas. Ils ont un élève qu'ils voient, qui disparaît. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a pas du tout encore en France de référent phobie scolaire, par exemple, dans les établissements.
Ou même de formation, je suppose.
De formation, voilà. Donc là, nous, on développe, et on n'est pas les seuls, bien sûr, mais on développe des liens privilégiés avec certains établissements pour justement pouvoir faire de la formation et pour voir qu'il y ait des interlocuteurs un petit peu dédiés aussi autour de ces questions-là dans chaque établissement. Ça, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que quand l'adolescent, il essaye d'y retourner, il faut qu'il puisse être accueilli par une personne en particulier. Souvent, il redémarre pas à temps plein.
Oui.
Donc, si on redémarre à temps partiel, il faut que les gens soient au courant.
Bien sûr.
Qu'ils ne disent pas, pourquoi tu viens à ce cours-là et pas à tel autre. Donc, il faut un référent sur place. Donc, c'est le travail avec l'école est fondamental. Et les professeurs sont... c'est dur, c'est vraiment dur pour eux parce qu'ils savent pas comment aider. Ils voient bien qu'il y a un problème, que c'est un enfant qui apparaît, qui disparaît, mais comment faire quand c'est pas pensé au niveau de l'établissement. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place autour du harcèlement. Sur la phobie scolaire, même si parfois c'est lié, c'est pas encore organisé en tant que tel. Alors qu'il faudrait vraiment un référent sur ces questions-là dans chaque établissement, au moins. J'ai parlé du harcèlement, bien sûr, parce que c'est aussi quelque chose qu'on cherche systématiquement. Dans une grande enquête qui a été menée justement en partenariat avec l'association Phobie Scolaire, les familles, donc dans les entretiens, ce qui remontait dans les questionnaires remplis par les familles, c'est qu'il y avait quand même pas loin de la moitié des situations de phobie scolaire où il y avait eu à un moment ou à un autre dans la scolarité de l'enfant un épisode de harcèlement. Donc c'est quelque chose qui est non seulement à ne pas minimiser, mais qui est à rechercher systématiquement et à comprendre aussi ce qui s'est passé, à le prendre en compte, bien sûr, dans cette peur liée à l'école.
Peut-être que si je ne suis pas très optimiste, c'est parce qu'il me manque aussi certains éléments sur la phobie scolaire. Est-ce que dans la majorité des cas, les jeunes et les enfants arrivent à retourner dans le même établissement dans lequel ils étaient ?
Ah, alors au début, j'ai pensé que vous alliez dire qu'ils deviennent après avoir traversé la phobie scolaire. Parce que si ça avait été cette question-là, effectivement, ça aide à rester optimiste. Parce que les ados, moi, je suis toujours, je me répète, mais je suis toujours tellement frappée par leur créativité. Ils prennent jamais le chemin qu'on attend.
Et leur force.
Mais ils en prennent un. Alors c'est vrai que parfois, enfin, ça va pas être toujours. C'est ce que je dis, un chemin tout droit, linéaire. Ça va être, vous savez, comme ces petits chemins escarpés où on fait des détours, où parfois on s'arrête, ce qui explore. Ce sont des chemins probablement plus intéressants, plus difficiles aussi. Mais ils retrouvent un chemin. ils retrouvent un chemin. Et ce sont des adolescents qui ont énormément de ressources. Leur famille aussi, d'ailleurs. Donc, ils retrouvent un chemin. Alors, c'est vrai que parfois, ben oui, ça va prendre un peu plus de temps. Parfois, ça va, il va y avoir besoin de passer par des établissements à petit effectif, ou parfois même, alors c'est vraiment une petite minorité, mais des soins études. Mais en tout cas, ils reprennent des chemins, même après une pause. On peut faire une pause. Pour eux, ce n'en est pas une. Nous, on pense que c'est une pause, mais ils se travaillent plein de choses. Donc, ce n'est pas une pause. En fait, c'est au contraire, ils sont au boulot. Et ensuite, à un moment donné, ils se sentent prêts et ils reprennent un chemin. Donc, l'idée n'est pas de dire on oublie la question scolaire et on voit... Voilà, bien sûr, parce qu'il faut... C'est important, parce que une période de déscolarisation, quand elle se prolonge... Et quand il n'y a rien qui est proposé du tout par rapport à la scolarité, on peut perdre confiance en soi. C'est-à-dire, j'arrive plus à comprendre les cours, ou alors quand je reviens ou quand je reprends un cours, bah là, je suis complètement larguée, je ne comprends rien. Donc, bien sûr qu'il faut penser à la scolarité. Mais comment pouvoir autrement accompagner la scolarité le temps que l'ado aussi aille mieux, hein, parce que parfois, quand on les voit arriver, nous, à la maison des adolescents, enfin... Là, je récemment, la dernière adolescente qu'on a accueillie sur l'hôpital de jour, c'était une adolescente qui n'arrivait plus à sortir de chez elle, tellement elle était anxieuse, et qui avait une image d'elle-même extrêmement dévalorisée, qui tremblait, si je puis dire, de partout, et qu'il a fallu vraiment prendre le temps de rassurer, qu'elle arrive à entrer dans la maison des ados, à rejoindre le groupe, et c'est autour de médiation, hein, de l'art plastique, on a des ateliers radio, enfin, qu'elle a pu progressivement reprendre confiance dans ses capacité à penser, à créer avec les autres. Hein. Donc voilà, il y a aussi tout cet enjeu de les soulager, hein, de cette grande anxiété qu'ils ressentent dans ces moments-là où ils pensent que tout est bouché, l'avenir est bouché, puis rien n'est possible.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la phobie scolaire et le burn-out qui existe en entreprise et qui explose aussi ?
Alors, question très, très juste. Il y a même une nouvelle appellation, en fait, hein, qui est assez récente, d'ailleurs, qui doit dater d'il y a, à peine, je dirais, 2-3 ans, enfin, en tout cas, quelques années, assez récente, qui parle du burn-out des adolescents. Ce serait une corrélation entre cette pression très forte, liée à ce système à la fois scolaire et même après, hein, vraiment le post-bac, voilà. Et ce qui est décrit dans les critères, c'est une perte de sens. C'est-à-dire les adolescents, ils ne voient plus le sens de se battre pour tenir cette pression. Ils ne voient plus le sens de ça. Donc, ils s'épuisent. Et il lâche. Donc c'est, je pense, assez juste. Et moi, ça m'est arrivé en consultation, même encore récemment, avec une famille qui était venue avec une jeune fille en classe de seconde, justement, une élève brillante, famille soutenante, et qui avait lâché. Et rien que le fait de pouvoir nommer ça, ce que je ne fais pas toujours, mais là, je l'ai nommé, j'ai parlé de cette... en plus, ça a parlé aux parents, finalement, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on connaît dans le monde de l'entreprise. De parler de ce burn-out, de parler de cet épuisement, ça a soulagé, et on a pu un peu mettre des mots sur, en fait, une pression et une angoisse terrible qu'elle avait, et qu'on lui mettait quand même aussi, hein, dans le lycée où elle était, et elle n'y arrivait plus. Voilà. Donc on a pu nommer ça en utilisant ce mot-là.
Ça ne m'étonne pas du tout. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents d'enfants qui vivent des phobies scolaires ? Est-ce que vous auriez une dernière chose à leur partager ? Des ressources, un conseil, quelque chose que vous auriez envie de leur dire ?
Faites-vous confiance. Alors, pourquoi Moi, je crois beaucoup dans les familles, en fait, qui souvent sont, n'arrivent plus justement à se faire confiance. On leur met tellement de jugements, d'injonctions, même parfois des injonctions paradoxales, qu'on en oublie en fait le quotidien. Et je veux dire, les familles, moi, que je vois, elles ont déjà essayé plein de trucs. Elles ont déjà essayé. Et combien ont des jugements sur mais quand même, s'il va pas à l'école, hein, c'est quand même un peu que t'arrives pas à le faire aller à l'école, c'est quand même un peu ta faute, hein. Alors c'est dit directement, parfois ça arrive, hein, quand même, hein, que ce soit les gentils amis ou la gentille famille élargie, mais combien ont entendu, hein, quand même que bon, je veux dire, il suffit de les forcer un peu, et puis voilà, hein, c'est que tu laisses faire, t'es laxiste, bon. Mais non, les familles, elles ont essayé plein de choses. Donc, faites-vous confiance, et faites confiance à votre ado. N'ayez pas peur, malgré tout ce que vous entendez, du fait de perdre du temps. C'est pas vrai qu'ils perdent du temps. Et même s'ils font leur collège ou leur quatrième en 2 ans ou leur seconde en 2 ans, et même s'ils passent par des chemins, comme je disais, plus complexes, non seulement c'est pas grave, mais c'est pas vrai qu'ils perdent du temps. C'est un temps de travail infini. Donc, des conseils, oui, ça met au boulot, hein, en tant que parent. Il faut travailler sur soi. Parce que ça génère aussi une anxiété terrible pour les parents. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Comment je peux réagir? Est-ce qu'il faut que je dise ça, que je dise pas ça? Est-ce que c'est lâché que de plus... Donc, ça met au boulot, sur soi-même. Il faut pouvoir être accompagné en tant que parent pour tenir, parce que oui, c'est long. C'est long. C'est une traversée, c'est vraiment une traversée, c'est comme sur un bateau, hein, y a la tempête, on tient le cap, les enfants, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin que les parents, qui sont les personnes les plus importantes, enfin les figures parentales, tiennent, survivent en fait, hein, avec cette tempête, ces vents contraires. Donc il faut être soutenu. Que ce soit par des groupes de parents, que ce soit par des soutiens individuels, que ce soit... il faut être soutenu, et surtout, faites confiance dans votre ado et en vous-même pour lui faire passer ce message, que parfois l'ado, surtout au départ, ne voit plus du tout, qu'il y a une sortie à tout ça, oui. Et que cette sortie... il y aura une richesse, ouais. De toute façon.
Elle sera, voilà, belle.
Même si on ne sait pas comment ça va se terminer, toute cette histoire-là.
Je vais vous poser une dernière question, c'est la question rituelle du podcast. Comme vous le savez, il s'appelle « Les adultes de demain ». Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ?
Oula, comme ça, sans réfléchir, sans poser une colle. ce que je leur souhaiterais, c'est de pouvoir continuer à croire en eux, c'est-à-dire à croire que on rentre pas dans des étiquettes, on n'est pas dans des moules, et de croire, on est tellement pris dans des choses, que ce soit sur notre planète qui va mal. Que ce soit pratiquement, moi les ados, je vais des fois, mais à quoi bon faire des enfants, enfin c'est moi, à chaque fois que j'entends ça chez un ado, c'est pour moi c'est terrible, parce que s'il y a une chose dans laquelle je crois, c'est la parentalité, et c'est ce qu'on peut transmettre à ses enfants et aux enfants des autres, enfin c'est ça, tout ça, c'est cette transmission intergénérationnelle, ça c'est vraiment ce en quoi je crois. Donc croyez en vous pour continuer la chaîne de transmission. La transmission transgénérationnelle, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui fait que ça se prolonge. Donc de pouvoir résister contre cette parole tellement inquiétante, tellement angoissante et qui bloque tout.
Super, eh ben, merci infiniment. On n'a pas encore évoqué votre livre qui parle de la phobie scolaire. Je mettrai les ressources et les liens en description du podcast. Ce livre est extrêmement bien réalisé pour en savoir plus sur la phobie scolaire et pour vous accompagner si vous êtes confronté à ce cas dans votre famille ou même dans votre classe, pour les enseignants qui nous écoutent. Merci infiniment Aurélie pour votre temps.
Merci à vous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.